Merci Jésus, tu m'as supporté, tu m'as porté dans tes bras Seigneur. Tu n'as pas regardé, oh Dieu, à mes incapacités, à mes insuffisances, mais tu as marché avec moi, tu as accepté de marcher avec un peuple aussi difficile, oh Dieu. Seigneur, comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas, oh Dieu, élever ton Saint-Nom ce matin encore? Comment ne pas, Seigneur, s'attacher à toi? Comment ne pas tourner encore ses regards vers toi, le Dieu vivant, le Dieu grand et incomparable? Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer convenablement Jésus? Est-ce que tu peux acclamer comme il se doit? Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Merveilleux Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia. Regarde à ce que tu es devenu. Regarde à ce que tu es devenu. Et c'est là que tu verras son œuvre dans ta vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Shalom, shalom. Que Dieu soit béni. Sommes-nous dans la joie d'être là ce matin? Que Dieu soit loué. Nous lui disons un grand merci pour les portes de sa maison qu'il a ouvertes pour nous ce matin. Il nous a accueillis dans sa maison, dans sa présence. Nous sommes chez lui. Alléluia. Nous sommes chez lui. C'est ici la maison de l'Éternel. Et le maître de la maison est dans sa maison. Et c'est lui-même en personne qui nous a accueillis ce matin.
Amen.
Et nous voulons le recevoir et l'accueillir encore par des applaudissements, des acclamations. Nous le recevons dans sa maison parce qu'il est là. Il est présent au milieu de son peuple. Est-ce qu'on le reçoit de cette manière-là vraiment? Oh! Oh là là! Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le recevoir? Oh, il est dans sa maison. Lui, il nous a reçus. Lui, il nous a accueillis. Et nous, nous l'accueillons dans sa maison. Il est chez lui. Il est chez lui. Il est chez lui. Restez encore debout une minute seulement. Pour ceux qui ont assisté à des grandes cérémonies où il y a les chefs de l'État et même le gouverneur, les protocoles d'État font ceci. Il y a un qui est quelque part là, il y a l'autre qui est dehors, pour voir quand le chef va entrer. Celui qui est dehors là, quand le chef est tout proche de la porte, il crie « Chef de l'État !» C'est tout le monde qui s'élève, on ne demande à personne de s'élever. Quand il crie « Chef de l'État », celui qui est ici, il répond « Chef de l'État !» Vous vous levez automatiquement. Mais celui qui est ici est plus que le chef de l'État. Jésus ! Jésus ! Nous l'accueillons dans sa maison. Il est présent dans sa maison. Il est présent dans sa maison. Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de notre célébration. Il est digne que nous le célébrions. Jésus. Alléluia. Alléluia. Et de sa part, je vous dis, mettez-vous. Voilà, prenez place. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. La Bible dit, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que David. Il y a ici plus que le temple même. Parce que Jésus est plus grand même que le temple. Jésus est plus grand que le sabbat. Alléluia. Qu'à lui seul soit toute la gloire. Nous disons également merci au pasteur Maurice, qui n'est pas là ce matin, qui nous a fait confiance pour que nous apportions la parole de Dieu au peuple de Dieu sous sa responsabilité, que Dieu se souvienne de lui là où il est et qu'il le visite
et qu'il nous les ramène délivrés totalement. Cela est possible avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je disais que Dieu vous bénisse ce matin. Pourquoi je dis que Dieu vous bénisse ce matin? Parce qu'il y a des choses qui vous ont échappé jusqu'ici, que vous allez commencer à saisir à partir de ce matin. Il y a des choses qui vous ont échappé jusqu'ici, que vous allez commencer à saisir ce matin. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Et le sous-thème que nous avons commencé à aborder depuis un certain temps, c'est être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu. Pour cela, nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 21 au verset 26. 1 Samuel chapitre 2, 21 à 26. C'est un texte que nous connaissons très bien, que nous l'avons lu plusieurs fois. 1 Samuel chapitre 2, du verset 21 au verset 26. Si nous avons trouvé, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants. » Ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Seigneur, la marche d'un consacré et jonché de toutes sortes de difficultés. Mais cependant, il est appelé à briller. Il est appelé, Seigneur, à relever la tête. Parce que, Seigneur, il porte dans ses mains la solution au Dieu, au problème de toute une génération. La solution au problème de toute une famille. C'est pourquoi, Seigneur, tu tiens à ce que, dans son processus de maturation, qu'il soit agréable à toi. Et nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Tu nous connais et tu connais tout de nous. Mais nous voulons, Seigneur, être un peuple agréable à Dieu. Bénis ta parole ce matin. Qu'elle trouve le chemin de nos cœurs. Qu'elle nous façonne, qu'elle nous forge, qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Nous accueillons la parole de Dieu par des applaudissements. Par des acclamations, nous l'accueillons avec cri de joie, célébration, parce que c'est la parole qui nous façonne, la parole de Jésus. Être agréable à Dieu. On peut être agréable à Dieu et pas être agréable aux hommes. On peut être agréable aux hommes et ne pas être agréable à Dieu. On peut aussi ne jamais être ni agréable à Dieu et ni agréable aux hommes. Là, c'est pire. Tu n'es pas agréable à Dieu, tu n'es pas agréable aux hommes. Ça veut dire que tu dois chercher ton monde à toi. Mais c'est possible que nous soyons aussi et agréables à Dieu et aussi agréables aux hommes. Et c'est cela le conseil de la Bible. Que nous soyons agréables à Dieu. Que nous soyons aussi agréables aux hommes. L'histoire de Samuel, comme l'avions dit plusieurs fois ici, nous enseigne sur comment un homme consacré à Dieu peut briller sur la terre. Il peut commencer faible, mais c'est la fin qui déterminera toute chose. Il commence faible, mais il finit au sommet. Il finit dans la brillance. Et cela est possible. Mais celui qui doit briller hier, demain, aujourd'hui, il doit travailler sur son caractère. Parce que connaître Dieu, c'est une très bonne chose. Avoir l'onction, c'est une très bonne chose. Connaître les Écritures, c'est une très bonne chose. Mais si ton caractère ne suit pas, tu commettras beaucoup de dégâts demain. C'est pourquoi il y a des gens qui ont l'onction aujourd'hui, mais parce qu'il y a défaut de caractère, ils font beaucoup de dégâts. Être agréable à Dieu fait partie de la quatrième marche de notre pyramide de maturation. Nous avons dit, c'est bien de travailler, de servir Dieu tout en portant les fautes. C'est encore très bien de servir à côté d'un homme appelé. C'est encore mieux que de grandir et de continuer à grandir. Mais il faut aussi que nous puissions être agréables à Dieu et aux hommes. Cela constitue comme une sorte de centre de gravité dans ces pyramides de maturation. C'est la ceinture qui soude, qui colmate, qui relie tous les processus. Sans cette étape, le processus perd son équilibre. Nous devons apprendre à être agréables à Dieu et être agréables aux hommes. Et nous avions introduit cette section ou cette quatrième marche de la pyramide des maturations en nous posant la question suivante. C'est vrai, il faut être agréable à Dieu. Mais comment être agréable à Dieu? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour être agréable à Dieu? Comment doit-il s'y prendre pour être agréable à Dieu? Nous avions donné comme réponse, ou en réponse à cette question, nous avons dit que nous considérerons deux points de vue. Nous considérerons le point de vue de l'apôtre Pierre et nous considérerons également le point de vue de l'auteur de l'épître aux Hébreux. Et jusqu'ici, nous avons considéré le premier point de vue, celui de l'apôtre Pierre, que nous avons découvert dans Actes chapitre 10, les versets 34 et les versets 35. Pierre est chez Corneille et là, Dieu se manifeste. Corneille, c'est un païen, lui, c'est un juif. Dieu se manifeste et Pierre tire des leçons de ce qui vient de se passer. C'est comme ça qu'il déclare, je reconnais que Dieu ne fait point exception des personnes. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est comment? Agréable. Donc, selon le point de vue de l'apôtre Pierre, celui qui veut être agréable à Dieu doit premièrement marcher dans la crainte de Dieu. Et deuxièmement, il doit pratiquer la justice. Marcher dans la crainte de Dieu. Et deuxièmement, pratiquer la justice. Ce matin, poursuivons l'analyse de cette quatrième marche de la pyramide de maturation en considérant le point de vue de l'auteur de l'épître aux Hébreux. Nous avons considéré le point de vue de Pierre. Pierre a évoqué deux éléments. Pour lui, pour être agréable à Dieu, il faut marcher dans la crainte de Dieu et il faut marcher dans la pratique de la justice. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous rapprocher de la librairie pour avoir tous ces messages. Mais ce matin, nous allons entamer l'analyse du point de vue de l'auteur de l'épître aux Hébreux que nous découvrons dans Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Lui aussi nous donne sa réponse. Il nous donne son point de vue sur cette question principale. Comment être agréable à Dieu? Est-ce que jusqu'ici ça va? Comment être agréable à Dieu? Pierre a répondu, lui aussi, il a une réponse à nous donner. Et il nous dit ceci. Lisons tous ensemble. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui remplace Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Formidable. Oui, vous avez raison d'acclamer la parole. Vous avez raison d'acclamer cette parole. Pierre a donné son point de vue en disant, pour moi, celui qui doit être agréable à Dieu doit marcher dans la crainte de Dieu. Il doit pratiquer la justice. L'auteur à l'épître aux Hébreux vient, il dit, oui, je suis d'accord avec toi Pierre. Mais je vais ajouter un élément capital. Il dit, or, sans la foi, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Il n'est pas dit qu'il est difficile d'être agréable à Dieu, mais qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Autrement dit, il n'y a que cette possibilité-là pour qu'un homme soit agréable à Dieu. Mais nous ne pouvons pas sortir les propos ou les points de vue de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui reste jusqu'à présent inconnu. Nous ne pouvons pas sortir son point de vue de son contexte. Pourquoi il a donné une telle déclaration? Nous devons savoir que l'Épître aux Hébreux a été adressé à l'origine aux Juifs, aux chrétiens qui étaient d'origine juive. Au départ, c'était à eux que cet épître avait été adressé. Ils sont chrétiens, mais ils sont d'origine juive. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'auteur leur adresse cet épître? Il a écrit pour régler un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que ces chrétiens d'origine juive couraient les risques de retomber dans le judaïsme. Autrement dit, il courait les risques de donner trop d'importance à des rituels. C'est pourquoi l'auteur à l'épître, de l'Épître aux Hébreux revient avec cet épître pour leur dire que la foi est supérieure à ce que vous avez connu avant. La foi est supérieure aux rites. La foi est supérieure aux pratiques du judaïsme. Parce que les mots clés dans l'Épître aux Hébreux, c'est meilleur, c'est supérieur. C'est pourquoi il y a tout le temps cette comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il leur dit, vous voulez retourner dans les anciennes pratiques du judaïsme que vous avez abandonnées parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Mais sachez que la foi est meilleure que ces choses-là. La foi est supérieure à toutes ces choses-là. C'est pourquoi je vais dire à un homme ce matin, Dieu a toujours le meilleur pour nous. Dieu nous réserve toujours ce qui est supérieur. Peut-être que tu as perdu quelque chose, mais Dieu en réserve ce qui est meilleur pour toi. Il a fini avec la première alliance, parce que si la première alliance était convenable, si la première alliance pouvait faciliter l'accès des hommes à Dieu, il ne pouvait pas la changer. Mais si Dieu l'a changé, c'est parce qu'il a constaté que ça vieillit et que ça comportait beaucoup, beaucoup de lacunes. C'est pourquoi il a amené le nouveau. Dans ta vie, Dieu ne changera pas de choses pour rien. Si Dieu ferme une porte, c'est que la prochaine qui s'ouvrira, ça sera la meilleure. Ça sera une porte supérieure à celle d'avant. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, on n'est pas agréable à Dieu par les œuvres. C'est ce qu'il veut dire. Dans la nouvelle alliance, nous sommes agréables à Dieu par la foi. Dans la nouvelle alliance, nous entrons par la grâce au moyen de la foi. Tel que l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 2, le verset 8. Nous marchons par la foi et nous nous maintenons dans la vie chrétienne par la foi. Non par les œuvres, mais par la foi. Souvenez-vous que nous avions dit que l'histoire de Samuel nous enseigne sur comment un homme consacré à Dieu peut briller sur la terre. Et il est dit que Samuel était agréable à Dieu. Samuel était agréable à Dieu. Or, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, Samuel ne pouvait pas être agréable à Dieu sans la foi. Aucun homme consacré à Dieu n'a brillé sur la terre sans la foi. Vous ne pouvez pas briller sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu sans la foi. Si tu n'es pas un homme de foi, il te sera impossible de briller sur la terre. Avant de toucher à la foi de Samuel, posons-nous la question suivante en guise d'introduction à l'analyse de ce point de vue de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Avant de toucher à la foi de Samuel, posons-nous la question suivante en guise d'introduction à l'analyse du point de vue de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Quelle est la question à laquelle nous voulons répondre ce matin? C'est une question simple. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la question à laquelle nous voulons seulement répondre ce matin. Qu'est-ce que c'est que la foi? Parce que nous parlons de la foi. Nous disons que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le juste vivra par la foi. Mais c'est quoi la foi? Avant de définir la foi, il est important pour nous que nous sachions qu'il existe la foi naturelle et la foi surnaturelle. Il existe la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle est raisonnable. Elle est raisonnable parce qu'elle est basée sur des choses visibles. Mais cette foi-là n'opère pas des miracles. Quelqu'un qui travaillait quelque part, qui avait un salaire de 100 dollars, et il trouve un autre travail où on lui paye 2000 dollars. Il vient de signer le contrat aujourd'hui et il vient de commencer le travail aujourd'hui. Dans son cœur, il pense déjà à changer de maison, oui ou non? Mais est-ce qu'il a déjà les salaires? C'est aussi une façon de mettre sa foi. Il sait que cette foi-là est assise par une relation, un contrat de travail. Il sait qu'à partir de ce travail, demain ma vie va changer. Demain j'aurai une autre maison, demain j'aurai un véhicule de fonction, demain mes enfants pourront aller étudier à l'étranger. Mais cette foi-là, elle est basée sur des choses raisonnables. Mais cette foi-là n'opère pas de miracles. Parce que le fait qu'on lui paie à la fin du mois, ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose qu'il reçoit en contrepartie du travail fourni. Vrai ou faux? Ça, c'est la foi raisonnable. Mais à côté de cette foi raisonnable ou naturelle, il y a la foi surnaturelle. Celle-là, elle n'est pas assise sur les choses raisonnables. Elle est assise sur des choses déraisonnables. Mais elle ouvre les portes de l'impossible. Elle est assise sur des choses déraisonnables, illogiques. Mais cependant, elle ouvre les portes de l'impossible. Et la foi dont nous parlons ici, ce n'est pas la foi naturelle. Nous parlons de la foi surnaturelle. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui ouvre les portes de l'impossible. La foi qui fraye les chemins même dans les déserts. La foi surnaturelle regarde au passé et revient au présent pour réclamer les bénéfices. La foi surnaturelle regarde au sacrifice de Jésus sur la croix parce qu'il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes comment? Et si je suis malade au présent, je dis quoi? Je suis guéri. Par quoi? Par ce qui s'est passé hier. C'est cela la foi surnaturelle. La foi dont il est question ce matin, je disais, c'est la foi surnaturelle. Qu'est-ce que c'est que la foi? Répondons maintenant à cette question. La réponse, nous la connaissons, c'est dans la Bible. Nous sommes au chapitre 11, le verset 1er. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Et je vais demander à la technique d'apprêter déjà la version King James en anglais. Toujours de ce même verset, de ce même passage. Hébreux 11, 1. La Bible dit, la Bible définit la foi. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. Ce que Louis Segond a traduit par ferme assurance, ceux qui ont des Bibles électroniques, ce n'est pas seulement nous, ceux qui ont des Bibles électroniques, sur des iPads, vous avez ce qu'on appelle les strong. Quelque part, vous avez S avec dièse à côté. Si vous cliquez sur ça, vous appuyez sur ça, vous allez voir des chiffres à côté de chaque mot. Et vous appuyez sur les chiffres qui sont à côté de ferme assurance, vous allez voir que ces mots, parce que là, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et nous devons chaque fois considérer la pensée originale. pour bien traduire ce que nos versions nous donnent, nous proposent comme traduction. Le mot qui est le groupe de mots ferme assurance, en grec, quand vous appuyez sur les strong, en grec, ce mot c'est hypostasis. Hypostasis. Et ce mot est utilisé à l'opposé de l'apparence. Et ce mot, lui, Segond l'a traduit, mais pas de façon objective. Lui, Segond l'a traduit un peu de façon subjective. Mais maintenant, voyons la version anglaise. Ce matin, nous apprenons et l'anglais et le grec. Il a dit quoi? Now, faith is the substance of things hoped for, ainsi de suite. Vous pouvez continuer. Mais moi, je m'arrête à la première phrase. Il a dit quoi? Now, faith, c'est-à-dire la foi, is the substance. C'est-à-dire, le mot ferme assurance, selon lui, Segond, est traduit ici par substance. Autrement dit, la foi est la substance de choses qu'on espère. La foi est la substance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque vous allez dans le dictionnaire, c'est quoi une substance? Une substance, c'est toute matière dont quelque chose est formé. Une substance, c'est toute matière dont quelque chose est formé. Pour avoir des orangers, la substance qu'il faut utiliser, ce sont les graines d'orange. Pour avoir les manguiers, la substance qu'il faut utiliser, c'est le noyau de la mangue. Et l'auteur à l'épître aux Hébreux est en train de répondre aux Juifs qui voulaient retourner dans le judaïsme, parce que pour eux, ils se disaient, la foi c'est quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose d'abstrait. Il va leur dire, la foi c'est la substance, c'est une chose tangible, c'est une chose palpable, c'est une chose touchable à partir de laquelle vous avez ce qui est visible aux yeux des hommes. À d'autres termes, il vient leur dire, vous avez besoin d'un champ d'oranger, dans vos mains vous avez les graines. La possession des graines vous rassure déjà que vous avez un champ d'oranger. Ça vous projette dans le futur que vous avez un champ avec vous. Il va leur dire, la foi n'est pas des choses imaginaires. La foi, c'est une chose touchable. C'est une chose abstraite. C'est une chose qui est tangible. Vous touchez et vous vous projetez dans le futur. The substance. 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 Mais comment il démontre cela? Nous sommes au verset 3, toujours du chapitre 11. Il dit, là nous rentrons dans lui Segond, là on n'est plus dans l'anglais. Il dit, au premier verset il dit, oh, la foi est une ferme assurance, c'est-à-dire la foi est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit maintenant verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Autrement dit, ce qu'on voit, la chair qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. L'écran que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. En d'autres termes, dans ce monde, Dieu a créé des choses visibles et des choses invisibles. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que tu ne vois pas encore, mais ne dis pas que ces choses n'existent pas. Elles existent bel et bien, mais c'est toi qui ne les as pas encore touchées. C'est toi qui ne les as pas encore vues. Il y a le mariage qui existe pour une femme. Il y a la bonne santé qui existe pour un homme, pour une femme. Il y a le travail qui existe pour quelqu'un, mais tu ne l'as pas encore vu. C'est pourquoi il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu ne voit pas Dieu, n'entend pas Dieu, mais qu'il croit que Dieu existe, que
Dieu est réel, que Dieu est touchable. Je ne l'ai pas vu, mais il existe. Je ne l'ai pas entendu, mais il existe. Je ne l'ai pas touché, mais il existe. Même pour mon problème là, je n'ai pas besoin d'entendre sa voix pour croire qu'il est avec moi. Je crois qu'il est ici. Je crois qu'il est présent. La substance. Tel que nous sommes là, nous avons des téléphones allumés. Il y a des ondes qui passent par-ci, par-là. Il y a des appels qui entrent. Il y a des gens qui regardent. Ça encore, c'est qui m'appelle? Il doit attendre la fin des cultes. Mais ce sont des ondes qui circulent ici. Mais qui voit ça? Personne ne voit. Mais pourtant, ça existe. Pourtant, ça existe. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Voilà pourquoi Dieu amène Moïse sur la montagne. Il lui dit, les tabernacles que tu construiras sur la terre, tu les feras selon les modèles qui te seront montrés. Où? Sur la montagne. Et dans Hébreu, il est dit, Jésus a traversé les tabernacles célestes. Ça veut dire que s'il y a un tabernacle sur la terre qui est visible, il y a un tabernacle au ciel qui n'est pas visible, qui n'est pas fait de main d'homme. Ça veut dire à quelqu'un, c'est que tu es là en réalité. Il y a une autre représentation que tu ne vois pas, qui est dans le surnaturel. L'auteur dit ceci. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que ça a été fait de choses comment? Invisibles. En d'autres termes, c'est l'invisible qui gouverne le visible. S'il n'y a pas d'invisible, il n'y a pas de visible. C'est l'invisible qui est supérieur au visible. Et l'auteur dit, la foi, c'est cette substance-là qui n'est pas visible des hommes. Mais c'est ça qui crée des choses. C'est ça qui crée ce qui étonne. Dans Colossiens 1, verset 16, l'apôtre Paul dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit que ce qu'on voit a été fait des choses invisibles. Ceci veut tout simplement dire que c'est l'invisible qui engendre le visible. C'est l'invisible qui donne naissance à ce qui est visible. Donc, si c'est l'invisible qui commande le visible, si c'est l'invisible qui engendre le visible, un enfant de Dieu ne perdra pas son temps sur le visible. Il doit saisir l'invisible. Dès qu'il a le visible sera visible. Le visible sera visible. Wow. J'ai donné tout à l'heure l'exemple des orangers. Quelqu'un a des graines d'orange dans un papier mouchoir. Il fait ça même comme ça, il met dans la poche. Mais il va planter quelque part. Personne ne voit ça. Mais lui, il a ça dans sa poche. C'est-à-dire, il a la substance, c'est-à-dire l'invisible qui doit créer le visible. Il a la foi. Le champ des orangers n'est qu'une question de temps. Parce que la substance, il l'a dans ses mains. Ce n'est qu'une question de temps pour que ce qui est invisible devienne visible. Tu pries pour un champ d'orangers. Dieu ne te donne pas les champs d'oranger, il te donne les graines. Il te dit, tu as déjà les champs avec toi. Tu poses l'action et tu laisses le temps. Et après quelques temps, ceux qui ne voyaient rien commenceront à voir quelque chose. Pour l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit que la substance qui a créé le monde, au verset 3 toujours, il dit, au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que le monde a été formé. En d'autres termes, il dit que la substance qui a amené le monde à l'existence, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'est pas visible, mais elle est tangible. La parole de Dieu, personne ne peut la toucher. Mais cette parole crée le monde. Voyez le monde avec toute sa dimension, avec tous ses reliefs. Avec les montagnes, les océans, les eaux et tout ça. Ce monde a été formé par la parole. Nous touchons les choses dures, mais ces choses n'ont pas été fabriquées dans un atelier quelque part. La Bible dit, et Dieu dit que la terre porte des arbres, que la terre produise des arbres portant des fruits. Et cela fit ainsi. La parole a créé le monde. La parole a engendré les choses visibles. La parole de Dieu a engendré les choses visibles. C'est pourquoi l'Éternel dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset 10 et le verset 11. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu envoie sa parole et il dit, je vous l'envoie comme une semence, comme les graines de cette orange qui sont appelées à produire des oranges. Il dit, cette parole que je vous ai envoyée ne retourne jamais à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comment comprendre cela? La Bible est formidable. Luc chapitre 5, du verset 4 au verset 6. L'histoire que nous connaissons très bien. Là, c'est Pierre et Jésus. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. La Bible dit, alors que le matin, Jésus vient, il sollicite sa barque, il prêche, et voilà ce qu'il lui dit. Lorsqu'il lui cessait de parler, Jésus a fini de parler, il dit à Simon, il lui dit quoi? Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets s'est rompu. Analysons cela très bien. Jésus vient, il utilise la barque de Pierre. Pierre est découragé. Peut-être qu'il a laissé des dettes au quartier. Il a promis à ces gens que je pars pêcher. Quand je reviendrai avec les poissons, je vais vendre et puis je vais vous payer. Peut-être qu'il a des engagements vis-à-vis de l'école des enfants. Il doit payer les Minerval, mais tout doit partir de la pêche des poissons. Il faut qu'il règle ses factures. Mais toute cette nuit-là, Pierre a pêché, mais sans rien prendre. Le matin, Jésus vient. Jésus fait comme une location de la barque de Pierre. En d'autres termes, Pierre est dans une entreprise double où il y a deux activités en quelque sorte en ce moment-là. Non seulement qu'il pêche, mais il peut aussi faire louer son bateau. Il met aussi son bateau en location. Mais Jésus, pour payer, Jésus dit, je ne te donne pas l'argent. Il dit, prenez vos filets et jetez là en eau profonde. Pierre fait quoi? Pierre regarde toute la nuit, il a pêché sans rien prendre. Mais Pierre vient, il dit, toute la nuit j'ai pêché et sans rien prendre. Mais maintenant, sur ta parole, c'est-à-dire sur la substance que tu me donnes, sur la substance que tu me donnes, je peux alors jeter le filet et avoir des poissons. Notez cette phrase. Celui qui saisit la parole de Jésus, c'est-à-dire la substance, est capable de saisir les poissons qui lui ont échappé toute la nuit. Celui qui saisit la substance, qui est la parole de Jésus, il est capable de se de saisir les poissons qui lui ont échappé. Toute la nuit, Pierre a jeté les filets. Il a jeté à droite, même là où Jésus lui a dit de jeter là. Pierre avait jeté aussi là-bas. Il a tiré sans rien prendre. Il a jeté à gauche sans rien prendre. Il est allé plus loin. Pierre est un expert en pêche. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Pourquoi Pierre n'avait pas attrapé les poissons? Il lui manquait la substance. Il a fallu que le matin vienne pour que Jésus lui dise, je te donne ce qui t'a manqué toute la nuit. Je te donne ce qui t'a échappé jusqu'ici. Je vais dire à un homme ce matin, il y a la parole qui t'a échappé, c'est pourquoi tu es resté dans cet état. Il y a la parole que tu n'as pas encore saisie, c'est pourquoi ta situation a perduré jusqu'à présent. Il est vrai que Dieu reste le maître des temps et des circonstances, mais ici, pour la plupart des gens, c'est le manque de la substance, c'est le manque de la foi qui a fait que vous demeuriez dans cette pauvreté, qui a fait que vous demeuriez dans cette situation. La Bible dit que les pauvres disent, je suis riche, non pas je serai riche, mais je m'approprie la parole de Dieu au présent. Que l'aveugle dise, je puis voir, c'est au présent. Jésus lui-même dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez. Il ne dit pas vous croirez, il dit croyez que vous l'avez reçu et vous ferez quoi? Vous les verrez s'accomplir. Je m'approprie la substance au présent, je marche avec assurance, je marche avec une perception nouvelle de la vie. Je sais que si j'ai saisi la parole de Dieu, le reste va m'obéir. Pendant 25 ans, l'homme de Dieu, le serviteur établi en ces lieux, il a injecté les substances et des vies ont commencé à changer littéralement. Nous sommes ceux qui avons reçu la substance. Il était seulement question du temps. Quelques temps après, Talandenga a commis Bisso, Talandenga a changé Bisso. Parce que la substance, il faut la recevoir. Pierre, sans substance, tu vas jeter partout sans rien prendre. Combien ici n'ont-ils pas jeté partout? Vous avez jeté à l'Olatra pour l'emploi, rien. Vous avez jeté les filets, c'est pas moi, à l'Ambar Savko, sans rien prendre. Vous avez jeté les filets dans les multinationaux, d'ailleurs même là c'est compliqué, sans rien prendre. Vous avez vous-même aussi essayé de faire quelque chose sans rien prendre. Mais maintenant, je viens t'injecter la substance. Je viens te donner la substance. Maintenant, par la foi, par la substance. Par la substance, jette maintenant le filet. Par la substance, jette maintenant le filet. Tu as attendu des enfants pendant longtemps parce qu'il te manquait la substance. Maintenant, je viens te donner ce qui t'a manqué pendant 25 ans. Les substances ont été jetées ici. La substance qui touche à la guérison. Il y a eu des malades qui ont été guéris ici. La substance qui touche au travail. Il y a eu des gens qui ont trouvé de l'emploi ici de façon miraculeuse. Il y a eu des substances qui ont été jetées dans tous les domaines de la vie. Y a-t-il des gens qui ont reçu la substance et que cette substance a produit? Dans les 25 ans de la bonne matinée, il y a tout ça dedans. Il y a tout ça dedans. Les serviteurs ne se poumonnent pas pour rien. Je ne fais qu'injecter la substance comme je l'ai fait ce matin. Si tu la reçois, tant mieux. La Bible dit, il donne la semence au semeur. Si je suis un semeur, j'ai prié ce matin pour dire, donne-moi la semence à semer dans le cœur. Je ne fais que donner. Si tu as un cœur fertile, ça va produire. Ça va produire, ça va porter des fruits. Ça va bouger. Celui qui saisit la parole de Jésus est capable de saisir les poissons qui lui ont échappé toute la nuit. Pierre, ce que tu dois saisir, ce ne sont pas les poissons d'abord. C'est la parole. C'est la parole que tu dois saisir. Trop souvent, nous avons tout le temps nos yeux fixés vers la difficulté, vers les choses qui nous résistent. Tu te dis, avec la conjoncture de ce pays, comment je vais faire? Samuel est comme, entre guillemets, jeté à Silo, au milieu de ces bandits, du sacerdoce, ces hommes pervers qui vivent dans l'immoralité. Mais pour Anne, elle sait que là, Je ne l'ai pas abandonné, je ne l'ai pas jeté. J'ai saisi la parole. Et la parole finira par produire les restes. Pour celui qui saisit la substance, c'est-à-dire, ce n'est qu'une question de temps. Je veux dire à un homme, ce travail que tu cherches, la substance telle que tu l'as là, ce n'est qu'une question de temps. Évidemment, pour les uns et les autres, ça prend le temps que ça peut prendre. Pour Abraham, ça a pris 25 ans pour avoir son Isaac. Il y a des gens qui ont, chacun a son calendrier, chacun a son agenda. Mais ce qui est sûr, c'est que la substance là ne périt jamais. Elle ne pourrit jamais. Elle ne meurt jamais. Tôt ou tard, ça finira par produire. Tôt ou tard, ça finira par produire. Pour celui qui a la substance, la parole, c'est-à-dire la parole, ce n'est qu'une question de temps. Notez ceci. La foi est la substance qui s'accumule par la parole et se libère aussi par la parole. La foi est une substance qui s'accumule par la parole et se libère aussi par la parole. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 10, le verset 17. Il dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, plus nous entendons la parole de Dieu, elle devient une substance qui s'accumule en nous. Plus nous écoutons la parole de Dieu, elle devient une substance qui s'accumule en nous et qui est appelée à être libérée. Voilà pourquoi il faut faire attention aux gens qui accumulent la substance le mercredi. Ils accumulent la substance le vendredi. Ils accumulent la substance le dimanche. Et il y en a même qui doublent les cultes. Il y en a d'autres qui se disent, à la réunion d'hommes, je ne manquerai pas. Là encore, il y a une substance, il faut de l'accumulation. Chez les mamans, elles se disent, je ne veux pas aussi manquer cette dose-là. Je vais accumuler. Parce que celui qui accumule finit par libérer. Il finit par libérer. Ils sont là. Il arrivera un jour où tu exploseras. Il arrivera un jour où tu exploseras. Ils verront un autre homme. Ils verront une autre femme. C'est ce que nous voyons également dans Actes chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Il y a une histoire exceptionnelle là-bas. Paul et Barnabas arrivent à Lystre. Et là, la Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. La Bible dit quoi? Il écoutait parler Paul. Il faisait quoi? Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la substance pour être guéri, voyant qu'il avait la foi, voyant qu'il avait la substance pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. Ils sont comme dans un auditoire comme celui de ce matin. Il est là, cet homme impotent. Pierre va là-bas en parlant. Il fixe Pierre, il entend Pierre, Paul. Paul bouge, il les regarde, il ne lui quitte pas des yeux. Il entend et par la bouche et les oreilles. Il entend Paul, il entend Paul. Plus il écoutait Paul, plus la substance s'accumulait en lui. C'est un impotent, mais la parole qui entre s'accumulait. La parole qui entre s'accumulait. Tout d'un coup, Paul regarde cet homme, il le fixe des yeux. Il voit que la substance a déjà mûri. L'accumulation a atteint certains niveaux. Il dit, je libère la parole. Allez, maintenant, lève-toi. Mets-toi debout et marche. Ça veut dire, plus tu accumules, plus ça te prépare à libérer ta foi, à libérer cette énergie, à libérer la foi pour que ce qui n'est pas visible devienne visible. C'est pareil également avec Anne. Je vais terminer par là. Anne est stérile, mortifiée par sa rivale Pénina. Elle n'a pas d'enfant. Mais comment s'est fait l'accumulation de la substance chez Anne? Elle a appris l'histoire de Sarah. On lui a parlé de Sarah.
Tu te souviens, Anne, notre aïeule, Sarah, la femme d'Abraham. Vous savez que Sarah aussi était stérile. Oui, oui, Sarah était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Et même, comme elle attendait tellement que l'enfant ne venait pas, elle a donné même son mari à sa servante Agar. Et Agar a eu l'enfant avant lui, avant elle. Mais Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu l'a visitée et Sarah a eu son Isaac. À l'âge avancé, Anne, Sarah n'avait plus de désir. Sarah a été doublement ménopausée. Mais elle a eu son enfant à l'âge avancé. Anne se regarde. Je n'ai pas encore eu cette ménopause fois deux comme Sarah. Donc si Dieu s'est souvenu de Sarah, il se souvient des femmes comme nous. Une première dose d'accumulation. On vient encore lui parler de Rebecca. Tu sais que l'enfant là qui était né là, Isaac, lui aussi, il avait épousé une femme. Cette femme a fait 20 ans de stérilité sans avoir d'enfant. Son mari avait prié pour elle 20 ans après. Et puis Rebecca avait conçu. Mais regarde Anne, 20 ans après, elle a accouché des jumeaux. Elle a eu des jumeaux. Donc, ce Dieu-là est capable de se souvenir d'une stérile. 20 ans après, elle a accumulé une deuxième dose. On est allé encore plus loin pour lui parler de Rachel. On lui dit, tu vois, nous sommes 12 tribus d'Israël, nous sommes d'Ephraïm. Mais tu connais notre grand-père, c'est Joseph. C'est lui, Joseph. Mais ce Joseph est né de qui? Il est né de Rachel. Elle était aimée par son mari, mais elle n'avait pas d'enfant. La Bible dit, l'Éternel s'est souvenu d'elle aussi. Et lui a donné, non pas n'importe quel enfant, mais c'était un prince. Joseph était un prince en Israël. C'est lui qui était comme le leader de toute la famille. Il dit, Dieu est capable, Anne, de te donner ton Joseph. Parce qu'elle est Ephraïmite, elle descend de Joseph. Elle connaît son histoire. Tu es né de cette femme-là. Il y a une accumulation à un autre niveau. La dernière dose d'accumulation, c'est la maman de Samson. On lui parle de cette femme-là. On dit, tu connais Manoa? Oui, je connais Manoa. Oui, mais c'était parmi nos, les papas de Samson qui fit notre juge et tout ça. Mais tu sais comment il avait eu Samson? Sa maman a eu Samson. Non, tu vois, elle était stérile. Et puis, avancer aussi en âge et tout, mais Dieu est venu. Dieu s'est souvenu d'elle. Et Dieu est venu la visiter. Dieu lui a dit, voilà, je vais te donner un enfant. Tu me le consacreras. Il sera tous les jours dans ma présence. Anne dit, cette accumulation a atteint son sommet. Cette fois-ci, quand je vais monter à Silo, je vais monter avec un argument. J'ai la substance avec moi. Elle arrive à Silo, elle fléchit ses genoux, elle dit, je vais faire un vœu à l'Éternel. Si pour Samson, c'est Dieu qui a demandé à ce qu'il soit consacré, moi je vais provoquer la consécration. Elle dit, si tu me donnes, moi, un enfant mâle, ça ne sera pas toi qui me demandera de le consacrer. Moi-même, je te le consacre. Je te le consacre. Dieu dit, est-ce que c'est vrai ce que tu me dis là? Pour tester, a beti mouke Eli mouel loko mokoboy. Eli a bungisi ma Eli. Elle dit, yo langue. Yo zana kwiti yo. Tu es ivre. Tu es passé ton vin. Mais Anne dit, je suis arrivé au bout de ce que j'ai attendu pendant longtemps. J'ai accumulé, c'est maintenant que ça doit se déclencher. Anne répond pour dire, non mon Seigneur, je ne suis pas une femme perverse. Mais c'est l'excès de ma douleur qui m'a fait parler jusqu'ici. C'est mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'ici. Mais je suis venu répandre mon cœur. Je suis venu libérer ce que j'ai accumulé. Je suis venu libérer la substance que j'ai accumulée. Dieu dit maintenant à Élie, elle est dans les bons, libère. Elle est dans les bons, libère. Elle est dans les bons, libère. Oui, elle dit libère maintenant. Elle dit va en paix. Et que le Dieu d'Israël t'exauce. Je vais dire à un homme ce matin, moi aussi je libère. Va en paix. Va en paix. Je libère la substance. Je libère la substance. Je libère la parole. Va en paix. Que le Dieu d'Israël t'exauce.
Que le Dieu d'Israël t'exauce. Que le Dieu d'Israël t'exauce pour cette maladie. Que le Dieu d'Israël t'exauce pour ces problèmes. Que le Dieu d'Israël t'exauce pour ce chômage. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Élève ta voix, parle au Seigneur. Élève ta voix, parle maintenant au Seigneur. Dis-lui, je crois que j'ai la substance. Je crois que j'ai la substance. C'est à partir de cette substance que tout sera créé. Atamoto epeli, nana kolenga lengate. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous entendre ça rapidement, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Asalaka tena na liloba na ya asalaka. Liloba nzambe zali. Na maboko na Yesu. Ya mona la kate. Kasi asala ebele. J'ai la substance entre mes mains. Tu as la substance. Tu es appelé à saisir. Tu es appelé à saisir. Saisis la parole de Dieu. Saisis la parole de Dieu ce matin. Saisis la parole de Dieu ce matin. La substance est en toi. La substance est en toi. La substance est appelée à libérer. La substance est appelée à libérer. À libérer. À libérer. À libérer. À libérer. À libérer. Jésus libère sa parole. Bien a dit sur ta parole. Sur ta parole. Je jetterai le filet. Sur ta parole. Je jetterai le filet. Sur ta parole. Je jetterai le filet. Alléluia. Tu as marché avec la substance de qui? Jusqu'ici. Tu as marché avec la parole de qui? Reçois la substance. Reçois la substance. Paul a regardé les potins. Il a vu la foi. Il a dit ça y est. Ça y est. La substance est là pour créer des choses. Alléluia. 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 Alléluia.
La victoire est certaine. Ayaka tango na lembi, tango elika esuki. Ye amona na kate, kasi asala ebele. Alobi garde silence. Moi je combattrai pour vous. Na maboko ya kondima, na simbili loba.
Tiens la parole. Saisis la parole. Saisis la parole. Saisis la parole. Yenda reba santa reba sete reba yeke. Oremane ma santa reba koria ma yeke. Alléluia. Que la sème.
Liloba esuka ezali na maboko na Yesu. Ye mwana na Nzambe. Solution ya ba problème. Ayata moto ya satana. Akufaliwa ya soni. Amema mikuma na ngaye. Nagolokota. Nagolokota. Yamona kati na moto. Nesi na kato lelonga. Wete na Yesu elongo. La victoire est certaine. Ayaka tango na lembi. Tango elikia esuki. Ye amona na kate. Kasi asala ebele. Alobi garde silence. Moi je combattrai pour vous. Na maboko ya kondima. Na simbili loba.
Na simbili loba. Je tiens la parole. Je saisis la parole. Alléluia. 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 Levez vos mains, je vais prier pour vous. La victoire est certaine. La victoire est certaine pour celui qui a saisi la parole. Pierre a saisi la parole et non les poissons d'abord. La parole a permis à ce qu'ils saisissent les poissons. Ce matin, si tu saisis la parole, si tu saisis cette parole qui sauve, cette parole qui rend un pécheur juste, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, fais-le ce matin. Jésus est capable d'entrer dans ton cœur et que tu saisisses toi aussi la parole qui transforme ta vie. Donne ta vie à Jésus, accepte-le. Donne-lui ton cœur. Levez nos mains, s'il vous plaît, je vais prier pour nous. Passez des temps devant. Nous devons terminer le culte. Seigneur, vois ces hommes et les femmes. Oh Seigneur, la substance est là. Ce n'est qu'une question de temps. Pour celui, j'ai prié pour ceux qui ont saisi la parole. Je prie pour ceux qui ont accumulé la parole. Je prie pour ceux qui ont accumulé la parole. Que maintenant cette substance soit libérée. Que cette substance soit libérée par la parole. Alors qu'ils ont prié. Alors qu'elles ont prié. J'ai prié, Seigneur, que le processus soit en marche. Le processus de guérison. Le processus de maternité. Le processus d'emploi. Le processus de paix. Le processus de tranquillité. Le processus d'expansion. Le processus dans tous les niveaux. Que les promesses s'accomplissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions pour l'homme de Dieu, le pasteur Maurice. Nous demandons, alors qu'il a accumulé la substance, que Dieu libère l'accomplissement de toutes les promesses qu'il lui a faites. Élevons nos voix, parlons au Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur. Il a saisi la parole qui lui a dit, je te laisse l'église et tu prendras ma fille en mariage. Il a saisi la parole et il attend l'accomplissement, Seigneur. Au milieu de plusieurs enjeux, au milieu de plusieurs souffrances, plusieurs difficultés. Mais celui qui a la semence, qui a la substance, Seigneur, ne lâche pas. Qu'il ne lâche pas, qu'il n'abandonne pas. Parce qu'il n'est question que de temps. Le temps arrive, Seigneur, où tu le sortiras de ce gouffre. Bénis cette œuvre et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, prenez vos places. Tu bénis à cette heure, ces dîmes, ces offrandes. C'est ton volontaire et tout ce que nous t'apportons. Sanctifie les Seigneurs. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse.